Épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4. Épître de Paul, donc la lettre que Paul va écrire à l'église de Philippe. Chapitre 4, et un simple verset, le verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Nous vivons dans un monde, et nous le savons pertinemment, qui est extrêmement violent et qui nous pousse à la violence. Les relations entre les êtres humains, les relations entre les hommes, sont souvent remplies de violence, remplies de haine, et nous, nous sommes spectateurs, acteurs ou victimes de ces choses-là. Nous pouvons entendre énormément de choses, que ce soit musique, que ce soit paroles violentes. Nous pouvons observer, lorsque nous tournons le bouton de notre écran de téléviseur, lorsque nous appuyons sur la zapette, aux informations, au journal de 20 heures, énormément de violence. Et finalement, ce climat déteint sur le caractère des enfants de Dieu, déteint sur mon propre caractère, et contraste avec ce verset qui, finalement, dans lequel l'apôtre Paul ordonne, même si nous n'aimons pas trop ce vocable, ordonne aux chrétiens de Philippe d'être remplis de douceur, et il le met en lien avec le retour du Seigneur Jésus. C'est compliqué de trouver une définition à la douceur. Elle s'oppose à la violence, elle s'oppose à la brusquerie, elle s'oppose à toutes sortes de choses. Mais la définition la plus juste que j'ai trouvée se trouve sous la plume d'Aristote, un philosophe grec, qui dira que la douceur est le point d'équilibre entre la colère chronique et un caractère mou et incapable d'indignation. Je trouve que c'est très vrai. Ça vous choque qu'on cite Aristote lors d'un culte ? Mais regardez Jésus. Il était capable de faire preuve d'indignation lorsqu'il rentre dans le temple et qu'il trouve les vendeurs qui sont là en train de faire du commerce. Et puis, à côté de ça, il était capable de faire preuve d'énormément de gentillesse lorsque des enfants viennent sur ses genoux et puis que là, il va les bénir. Il se définit lui-même comme étant doux et humble de cœur. Et la douceur, il ne faut pas la confondre avec la guimauve, avec un sentiment mou. Mais la douceur, c'est un sentiment fort. Moïse, pour être appelé un homme doux, a dû faire preuve d'énormément de caractère, a dû être extrêmement patient par rapport au peuple d'Israël qui ne cessait de regimber, qui ne cessait de se retourner vers ce qu'il y avait en arrière. La douceur, c'est tout sauf un sentiment de lâche. La douceur, c'est tout sauf un sentiment facile. Mais la douceur, c'est un sentiment fort. C'est un sentiment qui nous tire vers le haut, qui nous élève vers le haut. Et mes frères et sœurs, la Bible dit que nous avons le potentiel en chacun d'entre nous pour manifester cette douceur. Comment ? Moi, manifester cette douceur ? Mon mari manifester cette douceur ? Il a ce potentiel-là ? Ma femme manifester cette douceur ? Elle a ce potentiel-là ? Oui, dans le fruit de l'esprit qui est cité dans le livre des Galates, la douceur fait partie de cet ensemble de choses qui nous est donné dès la conversion par le Saint-Esprit. À partir du moment où nous disons au Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens habiter dans mon cœur, en nous est semé ce germe du fruit de l'esprit qui va générer entre autres la paix, la joie, l'amour, mais également la douceur et la maîtrise de soi. Maîtrise de soi, humilité et douceur sont trois concepts qui sont intimement liés. Pour être doux, il faut que je sois maître de moi-même. Et pour être doux, il est nécessaire que je sois humble. Nous le verrons et nous le développerons tout à l'heure. C'est une exigence car c'est un vecteur de témoignage. Et l'apôtre le dira à plusieurs reprises, elle doit gérer nos relations entre nous. Éphésiens chapitre 4, verset 2. Soyez simples, doux et patient. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Alors je le redis, supporter, c'est pas « qu'est-ce qui me fatigue ?» mais c'est « entraidez-vous, portez-vous vers le haut les uns les autres ». Alors on aurait pu travailler sur cet axe-là. Et en travaillant un petit peu sur ce thème-là, j'ai trouvé un commentaire qui va me pousser vers une autre direction. C'est un homme qui explique que le terme grec « protès », donc qui signifie « douceur », qui définit la douceur, ne décrit pas seulement le comportement évident de quelqu'un, ni même ses relations avec les autres, et très peu de ses dispositions naturelles. Il s'agit plutôt d'une grâce incrustée dans l'âme et qui s'exerce avant tout envers Dieu. C'est cette disposition d'esprit qui fait accepter ce que Dieu décide pour soi comme bon et refuser dès lors de discuter ou bien d'y résister. On a souvent tendance à dire « il faut que je sois doux avec mon frère, il faut que je sois doux avec ma sœur, il faut que je sois doux avec mon mari, doux avec mon épouse ». Mais la première personne vis-à-vis de qui nous devons manifester cette douceur indispensable que l'apôtre prône à l'église de Philippe, eh bien c'est vis-à-vis de notre Dieu. C'est vis-à-vis de celui qui a dit « je suis doux et humble de cœur ». C'est vis-à-vis de celui qui nous a sauvés et qui nous a rachetés, et je le redis et je le redirai encore, c'est possible. Alors, dans quelle direction doit aller cette douceur? Deux axes. Le premier axe, nous devons être doux vis-à-vis de notre Dieu pour supporter l'épreuve et pour supporter les difficultés. On est des chevaux fous. Enfin, pour ma part. Devant l'épreuve, quelle est notre première réaction? Devant la difficulté, quelle est notre première réaction? On est bien français, on râle. De la même manière que lorsque l'on se tape avec un marteau sur les doigts, la première chose que l'on fait, c'est qu'on crie. Et dans la vie, il en va de même. Et je ne jette la pierre à personne, c'est terriblement humain. Et lorsqu'on râle, bien souvent, on ne fait pas forcément preuve de douceur. La première personne qui est à côté de nous, elle prend. Quand j'ai le malheur de bricoler et que je me fais mal, la première Myriam, c'est qu'elle sait qu'il ne faut pas être à côté de moi quand je bricole. Hein, parce que je vais forcément faire des catastrophes, hein, et je vais me mettre à râler. On se cabre. C'est pas juste. C'est pas normal. Tout simplement parce que dans notre idéal de vie chrétienne, je suis chrétien, donc je ne dois pas souffrir. Je suis chrétien, donc je ne dois pas avoir de difficultés. Je suis chrétienne, donc tout doit rouler. C'est comme ça que, inconsciemment, on a été formaté ou alors on s'est formaté. La souffrance nous fait réagir parfois de manière extrêmement épidermique. La contrariété nous fait réagir souvent de manière totalement épidermique. Regardez le peuple d'Israël. Les plaies, la mer rouge qui s'ouvre, une vie nouvelle qui commence, puis les voilà dans le désert depuis pas longtemps, puis il manque d'eau. Alors ils voient les eaux de Mara, ils arrivent à Mara là, mais les eaux sont amères. Oh pauvre, qu'est-ce que Moïse ne va pas entendre? Tu nous as fait venir dans ce désert pour que l'on y meure, mais c'est pas possible. Comment cela se fait-il? Au moins en Égypte, on avait de quoi manger, on avait de quoi boire. De suite, il y a la notion de retour en arrière qui revient. Il y a la négation des bontés de Dieu. Et plus tard, ils vont même parler de la manne qui était ce miracle permanent, en disant « Nous sommes rassasiés de ce pain misérable. » On peut se lasser des bontés de Dieu. C'est une petite parenthèse que je fais. On peut se lasser des bontés de Dieu. Vous imaginez avoir du pain qui tombe dans votre cuisine tous les dimanches matins, tous les matins. Pas besoin d'aller chez le boulanger, avoir la nourriture qui vient là. Et on peut se lasser de ça. Parce que, eh bien, il y a une contrariété. De suite, le peuple hébreu, à qui nous ressemblons bien souvent, va manquer de douceur vis-à-vis de Dieu. Va se cabrer. Il va se relever. Il va se braquer. La douceur que Dieu a déposée dans notre cœur doit nous permettre en premier lieu de supporter l'épreuve sans regimber. Cette notion est intimement liée au fait que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, il ne faut jamais l'oublier. Dans les Béatitudes, lorsque Jésus va développer les trois premières notions dont il va parler, nous parle de cette douceur. Premièrement, heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, je l'ai prise dans la transcription Parole vivante, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles et doux, car ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre entière en héritage. Notre douceur commence et naît à partir du moment où nous franchissons le premier stade, à partir du moment où nous prenons conscience de notre pauvreté spirituelle, c'est-à-dire à partir du moment où nous nous convertissons, ou à partir du moment où nous prenons conscience et où nous nous développons en nous, où nous nourrissons en nous le fait que nous sommes des pécheurs, mais que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Qu'aujourd'hui, si nous sommes des enfants de Dieu, c'est parce que Dieu nous a fait grâce en offrant son Fils unique sur le bois de la croix. Et ces deux choses sont intimement liées. Ma douceur est manifestée au travers de mon humilité, au travers de ma reconnaissance. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis, je sais d'où est-ce que Dieu m'a sorti, je sais d'où est-ce que Jésus m'a sorti, je sais combien de péchés Jésus a pardonné, je sais le prix qu'il a payé, je sais que j'étais incapable de me changer par moi-même. Et de ce fait en moi, et en chacun des enfants de Dieu, lorsque vient l'épreuve, il y a cette certitude que nous serons consolés. Et même dans l'éternité, j'aime beaucoup ce texte du prophète Ésaïe qui est repris dans l'Apocalypse, lorsqu'il est dit que le Seigneur lui-même essuiera toute larme de nos yeux. Et ensuite, eh bien, vient cette nécessité d'être doux, parce que nous, doux, ceux qui renoncent à leurs droits, dit cette transcription. Car Dieu leur donnera la terre en héritage. Voyez-vous, mes frères et sœurs, la douceur commence ainsi, avec ce rapport étroit d'humilité. Je sais d'où est-ce que je viens. Je sais ce que Jésus a fait pour moi. Je lui en suis reconnaissant. Et de ce fait, je renonce à mes droits. Je renonce à mes droits. Mes prières ne sont pas des manifestations. Mais mes prières sont une relation, sont une demande d'un fils vers son père. Mes prières ne sont pas des réquisitions, mais c'est une demande pleine d'humilité que je fais et que j'adresse à mon Dieu. Je renonce à mes droits. Seigneur, c'est toi qui diriges ma vie. Seigneur, c'est toi qui conduis ma vie. Il y a une absence de tout mérite. Je ne mérite rien. Mais j'ai tout pleinement en Jésus-Christ, parce que je suis un pécheur sauvé par grâce. Amen. Donc, cette douceur n'a rien à voir avec du fatalisme. En disant, voilà, je suis éclaboussé de partout, je suis un véritable punching ball, bah, c'est comme ça, c'est parce que Dieu l'a voulu. Hein. Non. Mais la douceur, parce que c'est un sentiment fort, nous place eh bien, devant notre humilité, certes, mais également dans une position de foi, en disant « Seigneur, eh bien je sais eh bien que tu me donneras la terre entière en héritage, et je sais que je suis comme mon maître qui n'a rien dit devant Pilate. Je subis les choses, mais je le fais avec foi, en sachant que c'est dans ton plan et que c'est pour mon bien. » Les conséquences de cette douceur dans l'épreuve et dans la difficulté, elles sont multiples. J'en ai relevé quelques-unes sur lesquelles nous allons passer assez rapidement. Première chose, c'est qu'elle nous permet de sortir plus vite de la difficulté. À partir du moment où je vis les choses avec douceur, où j'accepte les choses, bien souvent, où je les comprends, bien souvent, je sors de la difficulté beaucoup plus vite. Vous qui êtes parents, un enfant qui fait un caprice, qu'est-ce que vous faites ? Vous l'avez mis dans sa chambre parce qu'il avait fait une sottise quelconque. Et puis il fait un beau caprice. Je me souviens, moi, une fois, d'avoir fini la salle de bain. Puis je faisais un tel caprice que j'ai tout cassé dans la salle de bain. Mais mon père ne m'a laissé sortir qu'à partir du moment où j'ai cessé de pleurer. Tant que je pignais, il a préféré voir sa salle de bain dévastée plutôt que de me laisser sortir. Parfois, je me demande si Dieu n'agit pas un petit peu de la même manière. Tant que je suis cabré et que je ne suis pas à l'image du maître à Gethsémané qui dit « Eh bien, que ta volonté soit faite. » Peut-être. Peut-être. Est-ce que je reste à tourner en rond dans le désert ? Deuxième chose, la douceur, elle fortifie notre foi. On se souvient de ce que l'apôtre Pierre dira dans sa première lettre, chapitre 1er au verset 7. Que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On sait que lorsque je passe par des moments difficiles, lorsque vous passez par des moments difficiles, eh bien cela fortifie notre foi et fortifie notre relation avec Dieu. Et que le Seigneur, comme le poursuit l'apôtre Pierre dans sa seconde lettre, sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Voyez-vous, mes frères et sœurs, en conclusion de cette première partie, eh bien, je dirais que dans l'épreuve, restons confiants et ne nous cabrons pas, ne nous rebellons pas, mais sachons apaiser notre cœur. Je ne comprends pas, mais Seigneur, je renonce à mes droits et j'accepte. Je ne sais pas ce qui ne va pas, mais Seigneur, je te fais confiance et j'accepte. Et quelle est la conséquence d'une telle attitude ? C'est que peut-être que l'épreuve ne sautera pas de suite, mais notre cœur restera dans la paix, restera tranquille, et on sera entre les mains de notre Dieu. Deuxième attitude dans laquelle nous devons manifester la douceur par rapport à Dieu, c'est dans la manière dont nous recevons sa parole. Jacques, chapitre 1er, versets 21 à 25. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Vous la recevez comment, la parole qui est annoncée ce matin ? Avec douceur ou ? Qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. On n'oublie pas, hein ? Et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Là, l'apôtre Jacques nous explique qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes, dans d'autres églises ou au siècle passé, hein, qui, lorsque Dieu leur parle, et nous savons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parce que parfois c'est un petit peu comme de l'alcool à 90 qui est déposé sur une plaie, parce que c'est comme de la lumière qui vient dans un lieu qui était enténébré et qui n'a pas été rangé depuis des années et des années, parce que ça appuie sur une corde et sur un point sensible, alors, eh bien, tout d'un coup, clac, le cheval fou reprend du service. Et le processus le plus logique, c'est finalement, eh bien, de dire, comment ça ? Moi ? C'est pas possible. Et bien souvent, on peut remarquer que là, l'apôtre, il parle d'écouter la parole et non pas de l'entendre. Entendre, c'est connaître les choses en théorie. On sait qu'elles existent. Je sais qu'il faut que je prie afin d'être capable d'aimer mes ennemis. Je le sais. Je le sais. Je l'ai entendu dire. Écoutez, c'est passer de la théorie à la pratique. Il y a ce verset du livre de Job au chapitre 2 et verset 10 qui dit « Lorsque sa femme lui dit « Maudit Dieu et meurt », etc., Job va lui répondre « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Il me dit qu'on est tout à fait prêt et bien souvent à recevoir des paroles encourageantes de la part de Dieu. Tu es mon enfant, je t'aime, je suis avec toi, je t'accompagne. On les reçoit, on les écoute. C'est vrai. Par contre, il y en a d'autres qu'on a du mal à recevoir avec douceur et qui font bouger des choses en nous, qui font renaître l'homme rebelle que nous sommes susceptibles d'être. Un jour, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, un docteur de la loi va s'approcher de Jésus et va lui dire « Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ?» Et puis cet homme, eh bien, va lui dire, Jésus va dire à cet homme « Qu'est-il écrit dans les Écritures ?»« Eh bien, tu aimeras ton prochain, etc. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ta pensée. Hein ?» Eh bien, fais-le, lui répondra Jésus. Et cet homme, les Écritures nous disent qu'il va chercher à se justifier. Il va dire, mais c'est qui mon prochain ? Et d'où la parabole du bon samaritain. Seigneur, qu'est-ce que parfois je ressemble à ce docteur de la loi ? Tu me dis ce qui est nécessaire de faire. Je sais ce qui est nécessaire de faire. Et pourtant, je me justifie. Je me justifie. Les autres le font, c'est difficile, c'est injuste, c'est contraire à ce que je pense. On m'a pas renseigné ça, on m'a pas appris ça. Puis j'ai pas envie, et puis personne ne me fera faire ce que j'ai pas envie de faire d'abord. Ça vous parle ? Et puis non, c'est pas le moment. Dans 10 ans peut-être. Non. Ou alors on repose une autre question à Jésus, mais la réponse sera toujours la même. C'est une condition d'être doux pour, l'apôtre Jacques le dit, si on veut un changement authentique en nous, si on veut être purifié. On se souvient des paroles de Jésus qui dit « Sanctifie-les par ta parole ». Et il prend l'exemple de cet homme qui se voit dans un miroir, le matin. J'aime bien expliquer ça comme ça. Le matin, quand vous voyez dans le miroir, vous aimez ce que vous voyez, vous ? Et des fois, c'est pas glorieux, hein ? Pas glorieux. Mais est-ce que pour autant, vous tournez le dos à votre miroir et puis vous reprenez la vie, comme avant ? Ça vous viendrait pas l'idée ? Non ! On se débarbouille, on se coiffe, hein, éventuellement, on se maquille, enfin bref, on fait ce qu'il faut pour se rendre un peu plus présentable. Il y a certains qui, mauvaise langue, mais ce n'est pas mon cas, diraient, pour cacher la misère. Ce n'est pas mon cas, je ne me permettrai pas. Mais dites-moi, ce que l'on fait pour notre corps, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour notre âme ? Ça vous est jamais arrivé à la sortie d'un culte de vous dire, mais je suis sale quoi. Il y a ce point-là qu'il faut que je change là. Ça colle pas. Faut que je peigne mon cœur un petit peu. Faut que je le lave. Et puis le temps passe et rien n'est fait. Est-ce que vous passeriez une semaine sans être peigné ? Non. Pour ceux qui ont des cheveux. Et parfois devant la parole on est ainsi parce que l'image qu'elle nous renvoie n'est pas conforme à nos concepts. Eh bien, que fait-on ? On tourne le dos et on arrête de la regarder, ou alors on passe à la page suivante qui est beaucoup plus agréable. Mais ça n'empêche que à l'intérieur, finalement, on est toujours sale. On a toujours cette épine de malheur là qui est dans notre vie. Qui reste ? Que personne ne voit peut-être, mais que Jésus observe. Parce qu'on s'est cabré. Conclusion. Que le Seigneur nous aide à manifester de la douceur les uns vis-à-vis des autres. Ok, ça on le fait. Mais avant de manifester cette douceur-là, je pense que il faut vraiment que l'on apprenne eh bien que notre Dieu, il est profondément souverain, qu'il fait tout pour notre bien. Dieu n'est pas tordu. Dieu n'œuvre pas pour lui. Mais tout ce qu'il fait, il le fait pour notre bien. Pour notre bien. Alors que le Seigneur nous aide à être doux dans l'épreuve et à l'accepter, en sachant que, eh bien, avec la tentation, avec l'épreuve, le Seigneur a également prévu le moyen d'en sortir. Et être doux lorsque nous recevons sa parole, que nous puissions l'accepter. Mes frères et sœurs, je vous le redis, il y a le potentiel en vous. Demandez-le au Seigneur. Demandez-le au Seigneur. Il y a le potentiel en vous. Le Seigneur l'a déposé par son esprit. Hein, par son esprit. Laissez grandir le fruit. Arrosez-le régulièrement par votre communion, par votre intimité avec Dieu. Et vous verrez que petit à petit, eh bien, cette douceur deviendra vôtre. Et comme le disait le commentaire que j'ai lu, elle ne sera pas un sentiment rapporté, mais elle sera incrustée. Elle sera incrustée dans votre âme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.